Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 11 juillet 2020. Salut Germain.
Bonjour Antoine.
Hey, on jase Corvette pour commencer aujourd'hui.
Oui, parce que la Corvette 2020 a beaucoup fait jaser parce que c'était l'arrivée de la 8e génération. Et on sait qu'il y a peut-être certains clients qui ont été déçus parce qu'ils avaient mis leur nom sur une liste d'attente.
Ben, en fait, c'est pas devenu des clients.
Oui, c'est ça. Donc, c'est soit des gens qui ont été achetés carrément un autre véhicule ou des gens qui ont décidé d'être un peu plus patient et d'attendre la version 2021. Et aujourd'hui, on apprend qu'il va y avoir quelques petits détails de différents pour la nouvelle année. On s'entend, ça va être assez discret. Il va y avoir des nouvelles couleurs, donc un nouveau rouge, un nouveau gris argenté. Bon, OK, c'est pas... Il n'y a pas de quoi s'exciter là. Il y a un nouvel ensemble de bandes décoratives. Ouais. Puis à l'intérieur, quelques petits détails aussi. Donc, un nouvel agencement de couleurs. Donc, pas beaucoup de changements pour la nouvelle année, mais certainement une production un petit peu plus massive, là.
Oui, puis j'ai aimé le fait aussi qu'on puisse obtenir, parce que c'était peut-être un défaut sur la 2020, quoique bon, ouais. On puisse obtenir la suspension magnétique ajustable sans prendre l'ensemble Z51 qui implique une conduite plus performante pas mal. Alors, ceux qui veulent avoir justement une voiture plus grand touriste, mais en pouvant bénéficier d'une suspension réglable, ouais. Là, ça sera déjà possible de le faire, alors que pour 2020, s'il fallait prendre l'ensemble Z51 et forcément ça impliquait une conduite un petit peu plus acérée. Là.
Et c'était peut-être pas ce qui était le plus adapté pour nos belles routes ici.
Hey, puis moi, ça me fait rire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commandé des Corvettes 2020 en se disant, tu sais, que ce soit 80 ou 100 000, c'était pas grave.
On
coche toutes les options, puis bon. Et là, quand la voiture débarque, puis que tu as les sièges de performance, puis que tu rentres pas dedans parce qu'ils sont serrés à mort, puis c'est des sièges de course inconfortables, là, tu regrettes un peu ton choix. Alors, moi, j'ai conseillé ça à plusieurs personnes, mais pour avoir parlé à certains concessionnaires qui en ont reçu une, deux, trois, beaucoup de gens avaient commandé ces sièges-là. Et puis, il y en a bien qui ont pilé sur leur orgueil en disant « Oh, oui, je les aime beaucoup. » Ouais, mais tu voyais que le fit n'était pas parfait, là.
C'est ça. On arrête souvent à la halte routière.
Ouais, c'est ça.
Puis dans les autres petits détails techniques, il y a un nouveau tachymètre numérique pour le mode piste. Donc, okay. Quelques petites nouvelles configurations comme ça pour 2021.
Bon, super. Raptor Ranger pourrait débarquer en Amérique.
Oui, exactement, parce qu'on sait que cette version-là du Ranger existe ailleurs dans le monde. C'est le cas notamment de l'Australie. Et pour ceux qui ne le savent pas à la maison, le nom Raptor est apposé au F-150. C'est une version c'est la version la plus extrême du F-150.
C'est ça.
Avec
performance, off-road.
La plus performante, c'est ça. Hors-route, qui a le look aussi le plus spectaculaire. Là. Ouais. Ça a l'air d'un gros jouet. C'est très ostentatoire là, comme véhicule. Ouais. Et c'est un branding qui fonctionne bien. Donc, pourquoi ne pas l'apposer à un autre véhicule de la marque et le Ranger s'y prête assez bien. Et il y a certaines rumeurs qui circulent sur Internet depuis un moment, mais là, ça s'intensifie, on dirait, à l'effet que le Ranger Raptor serait commercialisé en Amérique du Nord. Donc,
moi, j'ai un petit feeling parce que si on fait ça, tu sais, on sait que là, le Bronco va débarquer en utilisant le châssis de ce camion-là, du Ranger. On va offrir un choix de moteur dans le Bronco, donc un 4 cylindres de 2,3 litres qui est aussi dans le Ranger, mais aussi un V6 2,7 litres.
Exactement, exactement. C'est cette motorisation-là qu'on imagine là, dans ce...
Alors, est-ce qu'on mettrait ça dans le Ranger Raptor à 335 chevaux? Ça commence à être intéressant. Ouais. Mais pour l'instant, le Ranger, c'est pas un véhicule qui se vend énormément parce que les gens ne sont pas tous adeptes du 4 cylindres, parce qu'on a aussi l'handicap d'une seule longueur de caisse sur le modèle 4 portes. Alors ça fait en sorte que les ventes sont pas mal plus faibles que d'autres modèles compétition.
Et on sait que des versions extrêmes, ça reste populaire dans le segment des camionnettes intermédiaires parce que chez Chevrolet, on a la version ZR2, on a la version ZR2 Bison qui est une coche plus fort. On a
TRD Pro chez Toyota.
TRD Pro, même le Gladiator en version Rubicon, donc... chacune de ces petites camionnettes-là.
Nissan, le Pro 4X.
Oui, c'est ça.
Mais c'est ça. Ça, c'est Ben, une petite suspension, des autocollants, puis...
Ah oui, des autocollants de traces de boîte, là, ça, c'est génial. Tout le monde aime ça. Ça donne une allure...
Hey, j'en ai eu un, puis ça allait bien quand même.
Ah non, je te dis pas que ça allait mal.
Mais non, ça n'a rien à voir avec un ZR2.
Non, j'en ai bien l'impression.
Absolument pas. Donc, rumeur, mais on ne sait pas quand ça viendra. Audi qui a dévoilé, en fait, un concept d'un Q4 Sportback e-tron 100% électrique.
Oui, exactement. Donc, au salon de l'auto de Genève de l'année passée, hein, parce que cette année, il n'y en a pas eu, Audi avait dévoilé un Q4 e-tron concept. Et là, comme on le fait avec beaucoup de modèles, on a dévoilé une version Sportback. Comment on pourra décrire ça? Une version coupée à quatre portes?
Alors, l'équivalent d'un X4 versus un X3 chez BMW.
Oui. Donc, une version plus aplatie de l'arrière pour lui donner un look plus sport. Mais là, encore
il
là...
Perd en espace, polyvalence.
En tout ce que tu veux. Là. Ouais. Mais c'est un look qui, visiblement, plaît à bien des acheteurs. Et vous aurez deviné là, qu'avec l'appellation e-tron, on a affaire ici à un véhicule qui est 100% électrique. Il y a une batterie de 82 kWh hein, pour ce nouveau concept-là. Et pour ce qui est de l'autonomie, c'est difficile d'évaluer parce que les chiffres annoncés, c'est les données européennes, donc qui sont toujours beaucoup plus optimistes et beaucoup plus permissives qu'en Amérique du Nord. Okay. Donc, on est à 450 km. Donc, est-ce qu'on pourrait en retrancher, je sais pas, une centaine pour l'Amérique du Nord? Je pense que ce serait réaliste de...
Mais c'est un autre joie qui va coûter au bas mot 80-90 000.
Ah, tout à fait,
000,
là. Tout à fait. C'est ça. Donc, si vous avez, je sais pas, un A3 ou un Q3 et vous voulez faire le saut vers l'électrique en pensant que ça va vous coûter le même prix, oubliez ça, là. Oubliez ça.
Peut-être pas 80-90, mais en tout cas, ça sera pas super accessible.
Non. Et clairement, les subventions ne s'appliqueront pas non plus pour ce véhicule-là.
D'ailleurs, le e-tron qu'Audi propose actuellement, les ventes sont pas faramineuse. Et pour avoir conduit...
Mais on n'en tient pas des tonnes non plus en inventaire.
Non, mais tu sais, pour avoir conduit ce véhicule-là, je comprends que les ventes ne soient pas là parce que la personne qui recherche les sensations de conduite d'une Audi, tu ne les as pas avec le e-tron. Mm-hmm. Oui, c'est un véhicule électrique. Oui, la finition est impeccable. Oui, le look est réussi. Puis je pense que ça sera un véhicule qui va peut-être un peu mieux vieillir qu'une Tesla Model X, par exemple.
Oui, parce que la qualité de fabrication, la qualité des matériaux est là, là.
Mais sur le plan de l'autonomie puis sur le plan des performances, Tesla les bat à plate couture. Là.
C'est un premier essai aussi pour Audi. Là, donc,
Mais bon, si tu n'as pas besoin de 500 km d'autonomie puis de faire le 0-100 en une seconde.
Ce qui est la réalité de 100% des gens, là, ou presque.
C'est un produit qui peut être intéressant quand même, mais on est à 100 000 $.
Exactement. Alors, c'est sûr que faut y penser.
Fait que les gens à 100 000 $ préfèrent s'acheter des Sierra Denali 6.2 litres. Oui, c'est ça. Ça se vend mieux.
Ou tant qu'à rester dans le VUS allemand, d'aller chercher un Porsche Cayenne, un Q8, peu importe.
Absolument.
Parce qu'on est en terrain connu et voilà. Okay.
Bon, parfait. Honda Civic, on a appris que la voiture...
Ça commence à faire tic-tac un peu, là.
Oui, c'est ça. Alors, la Civic, pour 2021, on s'attendait à ce qu'elle change complètement.
Ouais.
Et là, elle va demeurer identique. Donc, est-ce qu'on va lancer une version édition finale ou spéciale édition?
Parce qu'actuellement, on a une noir, version...
C'est ça. Noir ou blanc, Black Edition, là.
Oui.
Tu sais, on ne sait pas exactement quels seront les changements apportés à la 2021, parce qu'évidemment, Honda est toujours très avare de commentaires, mais on sait que la voiture ne sera pas renouvelée pour 2021, ce qui signifie que la voiture aura été identique pendant 6 ans. C'est sûr que pour 2022, on a un nouveau modèle parce qu'on s'attendait à ce que ce modèle-là arrive pour 2021. Et là, j'ai l'impression qu'on a repoussé les échéanciers. COVID une cause qu'on peut comprendre.
Parce que, tu sais, on se met à la place de Honda et on se dit, bon, on l'aura dévoilé à quel moment? On l'aura dévoilé sur Internet? Je sais pas. Là.
Mais généralement, le cycle de vie d'une Honda Civic, ça a été longtemps 4 ans, c'est devenu 5 ans.
Ouais.
Et on a gardé une Civic sur le marché une fois pendant 6 ans. Ça a été la génération 2006 à 2011.
Mm-hmm.
Donc, 2012 Après ça, on a renouvelé le modèle jusqu'en 2015. Et après ça, 2016, c'est un nouveau modèle. Mais là, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, ça fait 6 ans. Alors, je me mets à la place de quelqu'un qui a loué une Civic en 2016,
ouais.
qui a reloué une Civic en 2019, parce que le concessionnaire l'a rappelé pour dire « Bon, ben au bout de 2 ans et demi, 3 ans, tu peux ramener ta location, je vais te rasseoir dans une autre. »
Pour le même prix, en plus.
Puis là, si on le rappelle l'année prochaine pour dire « Ouais, tu veux-tu une Civic? » Ben là, écoute, un peu de changement.
Et s'il jette juste un coup d'œil à la concurrence qui, elle, a évolué là, depuis 2017, ça peut être tentant d'aller ailleurs.
Oui.
Cela dit, les chiffres de vente prouvent que Honda continue de bien performer.
Ben oui.
Parce que ça demeure la voiture la plus vendue au pays quand même.
Oui, absolument. Depuis 2020, depuis le début de l'année, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ça a été la voiture la plus vendue, Corolla étant la deuxième, Elantra étant la troisième. Alors, c'est quand même, ça prouve que ce segment-là est encore assez populaire, mais bien sûr, les ventes de CR-V, RAV4 ont été supérieures depuis le début de l'année à celles de la Honda Civic. Alors, aussi drôle que ça puisse paraître, c'est quand même pas rien. Le CR-V qui vieillit, le RAV4, bon, qui est tout nouveau, mais on a de la misère à fournir en version hybride. On dit chez Toyota qu'à peu près un RAV4 sur 4 vendu, c'est un hybride, et qu'on serait capable de vendre au moins 10 % plus de véhicules. Donc, généralement, la demande serait quelque chose comme 35 % hybride, 65 % essence régulier. Puis là, on fournit à 25-75.
Ça permet de garder les prix des véhicules hybrides.
La valeur de revente est extraordinaire.
Non, mais même dans le neuf, là, tu sais, donc il n'y a aucune négociation possible à part probablement une casquette puis 4 tapis. Puis,
et dans
l'occasion, ben, ils gardent une très, très bonne valeur.
Oh, oui, absolument.
Là. Très, très bonne valeur.
Absolument. Et là, bien évidemment, avec l'arrivée de la version Prime qui va se faire d'ici quelques mois, bien là, ça va complètement changer la game. Version Prime qui va offrir plus de 60 km d'autonomie, 100 % électrique, 302 chevaux de puissance. Ça va être quelque chose, ça. On parle maintenant aussi du F-150 à moteur 5 litres parce que beaucoup de personnes nous ont écrit pour nous dire que...
C'est ça. On avait reçu quelques messages d'auditeurs et de lecteurs qui nous parlaient de certains problèmes de consommation d'huile avec leur...
Surconsommation avec le 5 litres.
Oui, avec le, mais dans le Ford F-150. Et là, on a posé la question dans le live qu'on anime, toi et moi, de manière hebdomadaire, les mercredis. Et là, il y a quelqu'un qui nous a écrit avec un descriptif assez clair de sa situation.
Ouais.
Et ça donne pas bien le goût d'aller s'en acheter un. Là.
Ben c'est un peu inquiétant, en fait, parce que on dit chez Ford que dans ce cas-ci, c'est-à-dire que le problème, c'est pour les modèles 2018 et plus. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit pour me dire oui, effectivement, j'ai eu un problème. Ils ont fait une reprogrammation, mais ça n'a pas changé grand-chose. Et la personne en question m'écrit ceci. Ils ont changé le PCV valve à 18 000 km. Ils consommaient encore de l'huile, environ 2 litres aux 8 000 km, donc 1 litre aux 4 000 km, c'est quand même pas rien. Ils ont remplacé le moteur à 23 000 km en raison de cela. Mais malgré ça, le nouveau moteur en prenait encore.
C'est drastique, là, un changement
quand même,
de moteur.
Ils ont sorti un bulletin de service pour reprogrammer. Ils ont changé le dipstick, donc autrement dit, la jauge d'huile. Et maintenant, il n'y a plus de problème. Donc, ils ont fait une reprogrammation, puis ils ont changé la jauge, et là, il n'en prend plus, rendu à 35 000 km. Donc, le problème était, semble-t-il, au niveau du système d'injection. C'est un peu curieux, j'ai pas tous les détails. Il y avait trop de cycles de vacuum, ce qui faisait aspirer de l'huile et créait par le fait même une consommation d'huile. Donc ça, non, mais ils ont quand même changé un moteur pour ça. Là.
Tout à fait.
Alors,
le
problème, c'est donc on le règle avec une reprogrammation du PCM et ça règle la question.
Et est-ce que ça va revenir, tu sais, éventuellement dans le cycle de vie de ce moteur-là qui a été changé, je ne sais pas. Là.
Si ce que ce consommateur-là me dit est vrai, la bonne nouvelle, c'est que le problème ne vient pas du moteur.
Oui.
Alors c'est pas un problème mécanique, c'est un problème électronique et c'est plus facile à régler.
Oui.
Bon, mais espérons que ce soit ça le problème. Moi, je vais évidemment poser la question aux gens de Ford pour avoir plus de détails. Et on vous reviendra la semaine prochaine là-dessus avec une réponse plus précise.
Oui, puis je sais pas pour toi, Antoine, mais moi, j'ai toujours été plus enclin à recommander le F-150, justement, en moteur 5 litres, parce qu'on n'a pas de turbo-compresseur, comme sur les 2.7 et les 3.5 dans le F-150. Ouais. Et mais là, tout d'un coup, ça devient un peu moins tentant, là.
Bien, en fait, le meilleur moteur dans l'industrie pour un camion pleine grandeur, ouais, ça demeure le moteur GM 5.3 litres
tout à fait,
ou le 6.2.
Tout à fait.
On se pose pas de questions. C'est vraiment, vraiment ça, le meilleur moteur. Mais en même temps, F-150, c'est quand même pas un mauvais camion. Il y en
ben
a
non,
quelques-uns sur la route.
Exactement.
Là.
Alors, donc, bon. Voilà, c'est embêtant. Véhicule de la semaine, Antoine?
Véhicule de la semaine, écoute, j'ai commencé ça de façon un peu inusitée parce que je sors de mon d'expertise.
T'as enlevé une roue, là.
J'ai enlevé une roue, une d'en arrière. J'ai roulé avec un Can-Am Ryker. C'est un véhicule qui a été lancé en 2019. Donc, bon, vous connaissez les produits BRP Can-Am. BRP qui veut dire Bombardier Recreational Vehicle.
Product, voilà.
C'est ça. Et donc, le Ryker, c'est le petit dernier de la famille. Ça fait quand même 12 ans que les Can-Am Spider existent, qu'on a lancé ça sur le marché. Puis aujourd'hui, ben c'est pas compliqué, il y a trois gammes. Donc, tu as le gros RT, là,
ouais,
qu'on voit partout, que les gens
qui
vont...
Qui est toujours jaune ou presque. Là.
Ouais, blanc, jaune, oui, c'est ça. Alors, les gros RT comme ça, c'est souvent des gens qui avaient une Harley, qui avaient une Mustang, qui avaient des bébelles, qui ont décidé de passer à autre chose, de vivre une nouvelle expérience, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus confortable qu'une moto. Tu as les F3 qui sont arrivés il y a quelques années, un peu plus sportif, mais encore là, on peut utiliser ça pour des grandes randonnées. Et là, on est arrivé avec le Can-Am Ryker en 2019. Très léger, donc ça pèse à peine 600 livres.
Okay.
Deux choix mécaniques, un Rotax 600 ou un Rotax 900. Alors, c'est 50 chevaux dans le cas du 600, 82 dans le cas du 900. Et les prix varient, c'est le fun, entre 10 et 15 000 $
Okay.
C'est très raisonnable au niveau des prix. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est complètement différent des deux autres. Parce que, bon, d'abord, un F3, ça commence à 20 000 $ Un RT, les gros, ça commence grosso modo à 30 000 et c'est pas long de monter ça à 40 000 avec,
ouais,
des options. Tandis que là, on n'est pas là. Quand vous allez avoir dépensé 16, 17, très forcé 18 000 pour un Ryker, parce que vous allez avoir tout mis dessus, là. Alors, c'est quand même une machine qui est pas mal plus abordable que les deux autres, qui est plus le fun à conduire parce que c'est vraiment, tu as vraiment l'impression d'une petite motoneige rapide, précise. Moi, j'ai aimé beaucoup l'accélération. J'ai essayé le 900. Alors, c'est le 900 en version rally que j'ai,
okay,
essayé. Puis, on dit rally parce que la version rally serait...
Parce qu'il est noir-mort, là, c'est ça?
Non, mais serait configuré pour que le véhicule puisse aller en hors-route. Mais dans les faits, personne ne va faire du hors-route avec ça.
Tu vas pas aller plus loin qu'un chemin de gravelle bien tapé.
Non, c'est ça. Alors, ça a pas de bon sens. Mais les performances sont là. Le 0-100 km/h, c'est très rapide parce qu'évidemment, à 600 livres, même avec 82 chevaux, je peux te dire que ça accélère pas mal. J'ai beaucoup aimé la conduite de ça, mais pour de l'autoroute pendant 3 heures, c'est bon rien.
Okay.
Vraiment, là, c'est une machine intéressante à conduire sur
des routes provinciales.
Et moi, je me suis amusé. J'étais allé faire la route des vins avec ça.
OK.
Dans les cantons de l'Est. Magnifique route.
On salue Régent de Terrebonne.
Hein?
On salue Régent de Terrebonne.
Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est une route qui est extraordinaire pour ça. C'est vraiment un chemin de prédilection parce que, évidemment, tu peux rouler à des vitesses confortables, 70, ouais, 80, 90 km/h.
Et avoir du plaisir en manœuvrant l'engin.
C'est ça.
Là.
Puis, tu as des virages, tu as un beau paysage. C'est un peu le principe de rouler ça. Mais on l'a aussi conçu pour une conduite urbaine. Alors, c'est un véhicule plus compact que les autres, plus maniable en ville,
mm-hmm,
là, amusant, plus sécuritaire aussi qu'une moto traditionnelle. Puis, tu as l'avantage aussi d'avoir un contrôle dynamique de stabilité et un anti-patinage, mais qui est quand même très, très permissif.
Donc, on peut s'amuser
Donc,
quand
tu
même.
Tu peux t'amuser, faire drifter ça un petit peu si tu veux. Il y a ça qui est le fun. Puis, je veux mentionner aussi que c'est une machine qui est raisonnable en matière de consommation d'essence, de rendement. Évidemment, tout ça, tout dépend comment tu la pousses.
Oui.
Mais moi, j'ai trouvé ça bien le fun. Puis on vise les jeunes.
Oui.
On vise des gens qui n'ont
pas
eu
du
de bébelle
avec
ça.
Les autres produits BRP à
trois
roues.
Non, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui a déjà eu une Miata qui va s'acheter ça.
Je comprends.
C'est quelqu'un qui s'achète un premier jouet, qui fait un premier pas dans le domaine. Et on offre le cours de conduite avec. Donc, si vous achetez un BRP comme celui-là, ouais, on offre le cours gratuitement. Ça vaut 250-300$. C'est un cours qui dure une journée. À moins, bien sûr, que vous ayez déjà votre permis de moto. Ça règle la question.
Ouais.
Mais sinon, c'est pas un permis de moto que ça prend. C'est un cours d'une journée. Donc, c'est très simple. Puis là, ben, même que BRP, en ce moment, a une promotion parce qu'on veut séduire les femmes.
Ouais.
Donc, au courant de la semaine prochaine, si vous vous présentez dans un concessionnaire BRP, on vous fera une présentation du produit. Et en assistant à la présentation, on vous offre gratuitement le cours de conduite sans obligation d'achat, mais juste pour les femmes.
OK.
Alors, si toi, Germain, si t'as le goût de te déguiser, ben, tu peux y aller.
Je suis pas sûr que ça va passer, puis je suis pas sûr que ça me tente non plus. Ben, mais non. Merci pour l'offre. C'est bien généreux.
Mais tout ça pour dire que c'est une machine avec laquelle j'ai eu bien du plaisir. Deux défauts, par contre, c'est très léger. Donc, sur l'autoroute, plus ou moins adapté à des vitesses
c'est
de 115, 120.
C'est sensible au vent, peut-être.
C'est sensible au vent. Moi, j'ai moins aimé sur l'autoroute. Bon, il faut dire que celui que j'ai essayé n'avait pas de visière non plus. Fait que ça a un petit impact. Et il y a les rangements de série. Il y en a un seul. C'est gros comme un coffre à gants de Mini Cooper.
OK, donc tu mets un portefeuille,
tu
puis
mets pas grand-chose,
tes clés, c'est
et
tout.
Il n'est pas verrouillable.
OK, alors, donc tu mets pas ton portefeuille ni tes clés.
Tu mets ta bouteille d'eau, ça s'arrête là, puis ta crème solaire. Mais tu peux acheter, bien sûr, des ensembles pour ajouter sur le véhicule, donc des pochettes de rangement rigides que tu peux placer à différents endroits qui, elles, sont verrouillables.
Ouais.
Mais là, évidemment, c'est des options supplémentaires. Fait que ça, c'est le petit point négatif que moi, j'ai trouvé. Tu peux aussi ajouter un deuxième siège pour un second passager, mais c'est peut-être moins agréable à conduire à deux que seul sur la machine parce que le secret de ce véhicule-là, ça demeure le poids.
OK, ben intéressant. De mon côté, rapidement, j'ai conduit le Kia Niro électrique. On avait fait un match comparatif l'an dernier avec le guide de l'auto.
Ouais.
Et on avait conduit à tour de rôle le Kona, le Soul et le Niro électrique. Puis j'en arrive à la même conclusion en ce moment, c'est que l'aménagement intérieur et surtout du coffre du Niro, le rend le plus intéressant des trois à mes yeux parce que...
Quand tu dis les trois, c'est versus Soul et Kona. Là.
Exactement. Donc, qui sont des sensiblement des...
Qui utilisent la même
copier-coller, là, voilà. Donc, pour moi, c'est le plus spacieux à l'intérieur et c'est drôle parce que c'est probablement celui qu'on pousse le moins chez Kia versus
Soul.
Parce
que c'est un format que les Américains veulent pas voir.
Exactement, parce qu'il n'y a pas un look de VUS que les gens veulent. Donc, et à chaque fois, le couple de ce véhicule-là me fascine. C'est instantané. C'est très, très, très rapide en ville. Franchement, pour ça, c'est bien, bien, bien pensé.
Mais as-tu déjà vu, toi, ça, un Niro accéléré de façon foudroyante en clenchant des Mustangs?
Parce que je ne l'ai pas vu parce que je l'ai fait moi-même.
Oui, c'est ça.
J'ai pas vu d'autres automobilistes faire ça. Parce que justement, tu as le cadran qui t'indique combien il te reste de kilomètres à parcourir avec ta charge. Et tu veux toujours améliorer ton rendement. Donc, quand tu mets le pied au fond, malheureusement, le rendement
baisse pas mal.
Le rendement est cop pas mal, mais toujours est-il
ces
que
jours-ci,
oui.
Ces jours-ci, tu mets le climatiseur aussi.
Oui, en plus. Donc, c'est certain que l'autonomie est cop pas mal. Mais sinon, pour ce qui est du système d'infodivertissement, c'est toujours aussi facile que dans les autres produits de la gamme Kia. C'est bien pensé.
Mais on ne pousse pas la vente de Soul.
Non,
on essaie de vendre davantage la Soul.
Oui.
Et puis, on va arriver prochainement, semble-t-il, avec le
Seltos. Donc, ça et ouvrir la porte de sortie au Niro, c'est pas mal la même chose, là. Donc, c'est sûr qu'il n'y a rien qui a été annoncé à cet effet-là, mais ça laisse sous-entendre qu'on abandonnerait le Niro, qui est offert en version hybride aussi, hein.
Ouais.
Donc, ça peut être une alternative intéressante.
Moi, de mon côté, rapidement, j'ai aussi conduit cette semaine, et tu as pu être passager à bord, un Lexus GX 460 2020. Donc, esthétiquement...
Et il faut insister sur le 2020, là.
Oui, parce que c'est un camion à la base qui dérive d'un Toyota Land Cruiser Prado vendu en Europe, en Asie. On l'a endimanché pour en faire un Lexus. Et il y a quelques années, il y a des designers de Lexus qui ont cru que c'était une bonne idée de mettre le design Elfiness à l'avant de ce véhicule-là, c'est-à-dire de mettre cette horrible grille.
Le gros sablier, là.
Ah, c'est épouvantable. C'est d'une laideur indescriptible. Mais quand tu prends place à bord de ça, d'abord, c'est un voyage dans le temps, parce que ce véhicule-là n'a à peu près pas évolué en 10 ans. Déjà, quand on l'a sorti il y a 10 ans,
c'était déjà passé.
C'était assez archaïque comme conception. Donc, véhicule sur châssis indépendant, dérive directement du Toyota 4Runner. On en a fait un véhicule à trois rangées de sièges, mais la troisième rangée est complètement inutile et prend de l'espace dans le coffre. Moi, j'enlèverais ça tout de suite. D'autant plus qu'on a un LX, là.
Oui, et comme c'est un châssis en échelle, ben, on l'a remarqué ensemble. En bon français,
haut,
là, c'est body on frame. Là.
Ouais, ouais.
Et le plancher est très haut. Donc, déjà, le seuil est très élevé.
Ouais.
T'es assis au plafond là, sur la troisième rangée,
mais
ça n'a pas de sens.
L'affaire, c'est que tu prends place à bord de ça, puis même si c'est vétuste au niveau de la conception,
ouais,
même si tu n'as pas beaucoup de dégagement, tu vois que c'est un camion d'une autre époque.
Ouais.
Ça respire la qualité à
oui.
un niveau incroyable. Tu sais que ce camion-là va encore rouler dans 25 ans,
oui.
il n'y en aura pas de problème. Tu sais, c'est ça un Lexus GX460. C'est sûr que sur le plan technique, bon, tu as un V8 de 4,6 litres qui fait 301 chevaux.
Pis c'est pas un rendement incroyable, là. Vraiment, vraiment pas.
On disait à la blague hors d'onde que c'est la même puissance qu'un RAV4 Prime hybride en fichable,
oui.
mais qui va utiliser un petit 4 cylindres avec des batteries.
Et qui va consommer quoi? 3-4 fois moins.
C'est
là,
ça, exactement. Le tiers. Parce que là, on parle d'une consommation au bas mot qui joue dans les 15 à 16 litres au 100 km. Écoute, là, on est complètement ailleurs. C'est un camion qui est capable de remorquer. C'est un camion qui est très bon en hors-route. Mais encore là, on est allé mettre des marchepieds de plastique là-dessus qui font en sorte
ouais.
que tu ne veux pas nécessairement aller dans les endroits les plus abrupts ou faire le fou avec ça.
Mais ce que je vois,
puis on n'en vend pas non plus.
Non, exactement. Il y a un tout petit volume de vente pour ça. Mais ce que je vois, moi, comme consommateur potentiel pour ce véhicule-là, c'est quelqu'un qui a eu peut-être 2 ou 3 BMW ou Mercedes et qui est tanné de payer des frais exorbitants d'entretien, qui est tanné d'avoir un service assez moyen. Et là, ben, finalement, il achète le véhicule de cette catégorie-là, le plus sûr, là, finalement.
Sauf que le problème, c'est que, un, il est pas regardable, puis deuxièmement, le comportement routier, écoute, la pédale de frein, c'est du marshmallow.
C'est une grosse pantoufle, en général. Et les suspensions sont très, très molles, donc, tu sais, tu frappes un trou, tu frappes un nid de poule, n'importe quoi, tu le sens pas. Bon, ça peut être un avantage ou un inconvénient, là, ça dépend quel type de conduite vous avez, mais c'est vraiment une grosse pantoufle.
Mais ce véhicule-là, on l'avait lancé en 2011, ici au Canada. Moi, je me souviens, pour avoir assisté au lancement du produit en 2011 à Mont-Tremblant, le jour où on effectuait l'essai routier du véhicule, la NHTSA avait annoncé des tests...
C'est la firme américaine là, pour la sécurité. Là.
Donc, des tests qui étaient très négatifs à l'endroit de ce véhicule-là parce qu'il y avait des risques de capotage intense. Évidemment, le seuil, le centre de gravité de ce véhicule-là est très, très, très haut. Le véhicule est plus haut qu'il est large.
Ouais.
Donc, ça y a un ballon qui est quand même assez considérable. Donc, ça, c'est un problème sérieux sur ce véhicule-là. Et c'est pour ça que les systèmes anti-patinage et de contrôle dynamique de stabilité ont été revus et sont ultra intrusifs.
Ouais. Pour être certain que vous ne viriez pas sur le top en bon français.
C'est ça. Mais quelqu'un qui travaille bien va le faire assez facilement.
Okay.
En tout cas, un petit peu plus qu'avec une Supra, ça c'est assez certain. Alors, est-ce que j'achèterais ça? Au grand jamais. Mais... la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en aura pas beaucoup sur les routes et ceux qui vont être sur les routes vont être là très longtemps.